إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui c'est le cours numéro 33 dans la série de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et aujourd'hui on va expliquer Babun fi Ahkam Salat Al-Kusuf, c'est-à-dire un chapitre au sujet des règles de la prière de l'éclipse du soleil ou de la lune. Hein? Souvent on dit Al-Kusuf pour l'éclipse du soleil et Al-Khusuf pour la prière pour l'éclipse de la lune. الشيخ يقول قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Donc le cheikh il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah, le Cheikh mentionne ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est lui Allah qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et qui l'a déterminé en phase pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé cela qu'en toute vérité. Hein? Allah n'a créé cela qu'en vérité, et il détaille ces versets pour un peuple qui sait, pour les gens qui savent. Et il dit dans un autre verset, وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le premier verset c'était le verset 5 dans sourate Yunus, et ce verset 6 c'est le verset 37 dans sourate Fussilat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ces signes il y a la nuit et le jour, et le soleil et la nuit, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas au soleil, ne vous prosternez ni au soleil ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui les a créés, si c'est réellement lui seul que vous adorez. Et le Cheikh il dit, salatul kusuf sunnatun mu'akkada باتفاق العلماء ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكسوف آية من آيات الله يخوف الله بها عباده قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الشيخ il dit que la prière de l'éclipse est une sunna qui est muakkada, c'est une sunna muakkada, elle est certaine. C'est une sunna qui est certaine, hein, qui est au sujet de laquelle les ulama sont tous d'accord, et elle est prouvée par la sunna qui est authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'éclipse fait partie des signes, donc c'est un des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala par ces signes là il fait peur à ses serviteurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 59 dans sourate Al-Isra, et nous n'envoyons nos signes que pour faire peur à nos serviteurs. dans le but de faire en sorte qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ولما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر ثوبه فصلى بالناس وأخبرهم أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده وأنه قد يكون سبب نزول عذاب الله أو سبب نزول عذاب بالناس وأمر بما يزيله فأمر بالصلاة عند حصوله والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك من الأعمال الصالحة حتى ينكشف ما بالناس. Donc le cheikh il dit que au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une éclipse de soleil. Donc il est sorti vers la mosquée en se précipitant et entraînant son vêtement, et donc il a prié pour les gens, il a prié comme imam pour les gens, et il les a informés par la suite que les éclipses sont parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels il effraie ses serviteurs et il fait peur à ses créatures, et il se peut que ce soit une cause parfois d'un châtiment qui tombe sur les gens. Donc il a ordonné de faire la prière lors de ces occasions pour enlever ce, pour que la cause d'un châtiment quelconque qui pourrait tomber sur eux puisse s'éloigner, en demandant le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le dua, en affranchissant des esclaves et des choses de ce genre, tout ça qui sont des bonnes œuvres, hein, et des bonnes actions, donc dans le but de retirer ce qui est sur les gens. ففي الكسوف تنبيه للناس وتخويف لهم ليرجعوا إلى الله ويراقبوه. Donc dans l'éclipse, il y a donc quelque chose qui rappelle aux gens qu'ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc c'est quelque chose qui vient ramener aux gens la crainte et qui leur fait prendre conscience qu'ils doivent être toujours se rappeler que Allah les observe. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موت عظيم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف. Cheikh il dit que dans la Jahiliya, avant l'islam, les gens croyaient que les éclipses arrivaient à cause de la naissance ou de la mort d'une personne importante. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nullifié cette croyance et il a montré sa fausseté. Et il a expliqué la sagesse divine dans le fait que ces éclipses se produisent. Et il a dit فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Mas'ud al-Ansari qu'il y a eu une éclipse du soleil le jour où le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim est mort. Alors les gens ont dit Le soleil s'est éclipsé à cause de la mort de ton fils Ibrahim. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a détruit cette fausse croyance en disant que le soleil et la lune sont deux parmi les signes d'Allah et il ne s'éclipse pour la naissance de personne et pour la mort de personne. Lorsque vous voyez un tel signe, alors précipitez-vous vers le rappel d'Allah et vers la salat. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, c'est rapporté dans Al-Sahihain, aussi dans Al-Bukhari et Muslim, « Fad'u Allah wa sallu hatta yanjali » Donc invoquez Allah et faites la salat jusqu'à ce que le soleil ou la lune soit revenue. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Donc, dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, le cheikh il dit que c'est rapporté selon Abi Moussa. Ça dit, lorsque vous voyez ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie, ce n'est ni pour la mort ni pour la naissance de quiconque, mais c'est uniquement un signe par lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait peur à ses serviteurs. Alors lorsque vous les voyez, lorsque vous voyez quelque chose de ces signes, précipitez-vous vers le rappel d'Allah, vers son dua et vers la demande du pardon. Ok. Ok. Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Après le Cheikh dit فالله تعالى يجري على هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلم أنهما مخلوقان يطرأ عليها النقص والتغيير كغيرهما من المخلوقات ليدل عباده بذلك على قدرته التامة واستحقاقه وحده للعبادة كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il fait que ces deux signes là, c'est-à-dire les signes de la lune et du soleil, par rapport à l'éclipse qui se produit, soit l'éclipse du soleil ou l'éclipse de la lune, et ben il fait que par ces signes là le serviteur puisse réfléchir et prendre des leçons, pour qu'il sache que ces deux créatures-là, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont très grandes, que ce soit le soleil et la lune, eh bien, ils peuvent également ils peuvent diminuer et ils peuvent changer, comme toutes les autres créatures. Et le cheikh, il dit que ça, c'est pour montrer à ses serviteurs sa toute-puissance et le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 37 dans Surat Fussilat, parmi ces signes il y a la nuit et le jour et le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni au soleil et ni à la lune, mais prosternez-vous uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés, si c'est réellement lui seul que vous adorez. Ensuite, le cheikh il dit waqtu salatil kusuf من ابتداء الكسوف إلى التجلي لقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم أي شيئا من ذلك فصلوا متفق عليه وفي حديث آخر إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم. Donc le cheikh il dit que à partir de quand est-ce qu'il faut que on prie la prière de l'éclipse? C'est, on doit commencer à partir du début de l'éclipse jusqu'à ce que le soleil ou la lune soit revenu complètement. Et ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Al-Mughira, et il dit, lorsque vous voyez l'éclipse, alors priez. Et dans un autre hadith, ça dit, et lorsque vous voyez quelque chose de l'éclipse, alors priez jusqu'à ce que la clarté soit revenue et que vous voyez le soleil et la lune en entier. Et ça, c'est rapporté par Muslim. Après, le cheikh, il dit, et c'est selon Jabir, oui, selon Muslim, par, c'est rapporté par Muslim selon Jabir. Il dit, voilà, tuqda salat al-kusuf, ba'd al-tajalli. لفوات محلها فإن تجلى الكسوف قبل أن يعلموا به فلم يصلوا له. الشيخ il dit que la prière de l'éclipse, une fois qu'elle est terminée, l'éclipse, on ne peut pas la reprendre parce que elle doit être faite à ce moment-là. Donc si l'éclipse est terminée et les gens n'avaient pas su au sujet de l'éclipse excepté après que l'éclipse soit terminée, eh bien, ils ne prient pas, c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire, ils ne la font pas. Après, le cheikh, il dit, wa sifatu salat al-kusuf, an yusalli rak'atayn, yajharu fihima bil-qira'a, ala sahih, min qawlay al-ulama, wa yaqra'u fi rak'at al-ula al-fatiha, wa suratan tawilatan, ka surat al-baqara, aw qadriha, thumma yarka'u ruku'an tawilan, ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كغيرها من الصلوات ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى بقدر سورة آل عمران ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يسجد سجدتين طويلتين لا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلهم مثل لهما ثم يصلي الركعتين الثانية كالأولى بركوعين طويلين وسجودين طويلين مثلهما فعل في الركعة الأولى كما فعل في الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم. Donc le cheikh ici il a fait une description de la prière de l'éclipse du soleil, et il dit la description de la prière pour l'éclipse du soleil, c'est que la personne prie deux rak'ah, hein, sauf que une des différences dans cette prière là lors de l'éclipse, c'est que au lieu de faire un recours seulement, dans chaque rak'ah on fait deux recours, d'accord. Donc, on va décrire ça étape par étape. Le cheikh, il dit, donc on fait deux rak'ah dans lesquels on récite à haute voix. Et ça, c'est l'opinion qui est correcte parmi l'opinion des ulama, qu'on récite à haute voix. Et dans la première rak'ah, on récite Al-Fatiha et une très longue sourate comme Al-Baqarah ou une sourate de cette longueur. Puis, on fait un recours qui est très long également. Donc on reste incliné pendant très longtemps dans le recours. Puis on relève notre tête, on se remet debout en disant Sami Allahu liman hamida comme dans les autres prières. Puis on récite Al-Fatiha encore une fois. Puis une autre longue sourate, plus courte que la première, comme par exemple Ali Imran. Si on a lu Al-Baqarah la première, dans la deuxième on récite Ali Imran, c'est-à-dire après s'être relevé pour le deuxième, après s'être relevé du premier recours, là on commence à réciter encore une fois Al-Fatiha et une autre sourate, une très longue sourate, mais moins longue que la première. Puis après on fait encore le recours, hein, on fait un deuxième recours qui est très long également, mais qui est moins long que le premier. Puis on relève notre tête en disant سمع الله لمن حمدا ربنا لك ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Puis ensuite on se prosterne deux prosternations comme dans les autres prières et on se prosterne longtemps, on reste longtemps prosterné. Et quand on se relève entre les deux sujoud, on reste pas longtemps assis, on fait normal, puis on se relève ensuite pour faire la deuxième raka. Et elle va, cette deuxième raka qu'on va faire, elle va être comme la première, c'est-à-dire dans la deuxième raka, on va également faire deux recours très longs, et on va faire deux sujoud également qui sont très longs, comme on a fait dans la première raka. Puis ensuite on fait le tashahhud et on fait le taslim. Hein? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bon. Et donc le cheikh dit هذه صفة صلاة الكسوف كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما روي ذلك عنه من طرق بعدها في الصحيحين. Le cheikh dit voilà la description de la prière de l'éclipse du soleil telle qu'elle a été faite par le prophète, par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans plusieurs voies ou dans plusieurs hadiths. Et parmi ces hadiths, il y en a qui sont dans Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh il dit parmi ces narrations là, il dit minha ma rawat Aisha radiyallahu anha anna ash-shamsa khusifat ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف متفق عليه. الشيخ dit que parmi les narrations qui ont été rapportées au sujet de la prière de l'éclipse, il y a la version qui a été rapportée selon Aisha radiallahu anha, qui est rapportée dans Al-Bukhari et Muslim, qui dit que c'est-à-dire il y a eu une éclipse de soleil à l'époque du prophète, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il s'est tenu et il a fait le takbir. Et il a mis les gens en rang derrière, les gens se sont mis en rang derrière lui. Et là il a récité, le messager d'Allah a récité une très très longue sourate et il a fait un premier recours très long. Puis il a relevé sa tête. Puis il a dit Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Puis il s'est relevé encore et il a lu une très longue sourate encore une fois, mais plus courte que la première, dans la première. Alors ensuite, il a fait encore le takbir et il a fait un recours très long, mais moins long que le premier recours. Ensuite, il a dit Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Puis il a fait le sujoud, il s'est prosterné. Puis il a fait une deuxième raka'a comme il a fait la première, jusqu'à ce qu'il ait complété quatre raka'a, c'est-à-dire, non, il a fait quatre raka'at wa arba'a sajdat, et quatre prosternations. Wanjalat al-shams, et le soleil est revenu avant qu'il soit parti. Donc ça veut dire que oui, ça veut dire que oui, c'est ça. Donc ça c'est la description qui est apportée dans ce hadith. Il dit ensuite wa yusannu an tusalli fi jama'atin li fi'l an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yajuzu an tusalla furada ka sa'ir an-nawafil lakin فعلها ولكن فعلها جماعة أفضل. Il dit que c'est une sunna de la prier en groupe, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la priait en groupe. Toutefois, il est permis de la prier individuellement, comme toutes les autres prières volontaires. Et toutefois, de la faire en groupe, c'est préférable. Ensuite, le cheikh il dit ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالاستكثار من الدعاء والاستغفار. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Donc le cheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté dans il explique que c'est une sunna également d'exhorter les gens et de leur faire un rappel après la prière de l'éclipse, et de les avertir contre l'indifférence et le fait de se laisser tromper par la dunya, et de leur commander également de faire beaucoup d'invocations et de dua et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans Sahih al-Bukhari et Muslim également, il y a un hadith qui est également rapporté selon Aisha radiyallahu anha, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était tourné alors que l'éclipse était terminée, l'éclipse de soleil est terminée, et il a commencé à s'adresser aux gens en leur faisant un discours, et donc il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il a dit le soleil et la lune sont deux parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne s'éclipsent pas pour la mort ou pour la naissance de quiconque. Donc lorsque vous voyez qu'il y a une éclipse, alors invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et célébrez sa grandeur, hein, et faites des salawat et faites des sadaqat, c'est-à-dire faites la prière et faites des aumônes ou des charités pour les gens. Après il dit فَإِنْ انْتَهَتْ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِ الْكُسُوفِ ذَكَرَ اللَّهُ وَدَعَاهُ حَتَّى يَنْجَلِ ولا يعيد الصلاة وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والصلاة تكون وقت الكسوف لقوله حتى ينجلي وقوله حتى يكشف ما بكم. Il dit, lorsque la prière est terminée avant que l'éclipse soit complétée, après tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais des du'as, et on ne refait pas la prière. Et il dit, et si l'éclipse s'est terminée et que le soleil est réapparu avant que la prière soit terminée, et bien dans ce cas-là, on la complète rapidement, on la fait légère et puis on ne la coupe pas, c'est-à-dire on n'arrête pas la prière là où on est rendu dans la prière, parce que l'éclipse est terminée. On la complète mais rapidement, on ne la coupe pas. Et il dit, il mentionne comme verset pour prouver ça, il dit le verset 33 dans sourate Muhammad, wala tubtilu a'malakum, c'est-à-dire ne rendez pas vos œuvres vaines, c'est-à-dire en sortant de la prière avant de l'avoir terminée. Donc il dit فَالصَّلَاةُ تَكُونُ وَقْتَ الْكُسُوفِ. La prière donc c'est durant l'éclipse elle-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jusqu'à ce que le soleil revienne, hein, et dans un autre hadith, jusqu'à ce que soit retiré, ou jusqu'à ce que l'éclipse soit terminée. C'est ça la signification de cette parole, hatta yukshafu ma bikum. Et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Oui, Al-Bukhari et Muslim. Et c'est selon Abi Bakra et selon Abi Mas'ud al-Ansari, comme dans l'autre hadith. Après, le Cheikh dit: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها يكسف منها فقد تكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها فإذا عظم الكسوف يطول الصلاة حتى يقرب البقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا وشرع تخفيفها لزوال السبب وكذا إذا علم أنه لا يطول وإن خف قبل الصلاة شرع فيها أو أوجز وعليه جماهير أهل العلم لأنها شرعت لعلة وقد زالت وإن تجلى قبلها لم يصلي انتهى. Donc le Cheikh explique ici les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit que parfois l'éclipse elle peut être longue et parfois elle peut être courte. Ça dépend de l'éclipse, parce que des fois c'est une éclipse totale, des fois c'est une éclipse partielle, et donc ça dépend. Et donc le Cheikh il dit parfois c'est juste la moitié de la lune qui est éclipsée, parfois c'est le tiers. Et donc lorsque l'éclipse est totale, eh bien c'est très long. Et donc dans ce temps-là ou dans un moment comme ça, on va réciter Al-Baqara ou une sourate qui est longue dans la première rak'a. Et après le recours, on va réciter une autre sourate qui est un peu moins longue que la première, comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on est commandé d'alléger la prière et de la raccourcir lorsque la cause est partie, c'est-à-dire lorsque l'éclipse est terminée, on est commandé de la raccourcir. Et si on sait que l'éclipse va pas être longue, alors c'est mieux de faire la prière légère et de la faire courte. Et donc si par exemple la prière est commencée et puis que l'éclipse termine, eh bien on termine la prière. Et pourquoi? Parce que c'est une prière qui est ordonnée pour une cause spécifique. Et donc, lorsque cette cause-là est terminée, eh ben, on complète notre prière rapidement. Et lorsque, par exemple, si l'éclipse est terminée avant qu'on ait commencé à faire la prière de l'éclipse, alors on la fait pas dans ce cas-là. Parce que la cause est terminée, c'est-à-dire l'éclipse est finie, donc on la fait pas. Après, le Cheikh, il commence à expliquer un autre chapitre. Et c'est le chapitre qui a rapport avec la prière par rapport à la pluie. Salatul Istisqa. Donc, on va lire ça, Inch'Allah, puis après on va s'arrêter. Cheikh, il dit: Babun fi ahkam salatul Istisqa. Un chapitre au sujet de la prière de la demande de la pluie. الاستسقاء هنا طلب السقاء من الله فالنفوس مجبولة على الطلب ممن يغيثها وهو الله وحده وكان ذلك معروفا في الأمم الماضية وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه واستسقى خاتم الأنبياء نبينا محمد لأمته صلى الله عليه وسلم مرات متعددة على كيفيات متنوعة وأجمع المسلمون على مشروعيته. شيخ الذكر الاستسقاء c'est de demander à Allah qu'il nous abreuve et qu'il nous donne de l'eau, hein, qu'il nous fasse tomber la pluie. Et il dit que les âmes des hommes sont créées de façon à ce qu'ils veulent toujours demander au secours à celui qui peut leur venir en aide, et c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de demander la pluie, c'est quelque chose qui a été connu dans les nations ou dans les peuples qui ont précédé, et ça fait partie des sunan des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et des prophètes, que le salut et la paix d'Allah soient sur eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans sourate al-Baqarah, le verset 60, que Moussa a demandé la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il a demandé à Allah de les abreuver. Wa idh istasqa Moussa, lorsqu'il a demandé à Allah de l'eau, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé par la suite de frapper la pierre avec son bâton, et donc il y a eu 12 trucs comme 12 sources qui sont sorties du rocher, 12 sources qui sont 12 sources qui sont sorties du rocher, qui faisaient couler l'eau pour abreuver les 12 fils de les 12 fils des tribus, hein, des tribus de Jacob. Donc ça c'est un des miracles d'Allah que Allah a fait pour Moussa, qui lui a permis d'abreuver son peuple, hein, par le fait qu'il a frappé le rocher avec son bâton, et Allah a fait couler l'eau de ce rocher là pour abreuver le peuple, les enfants d'Israël. Ensuite, le cheikh il dit que également le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a également demandé la pluie à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa umma en plusieurs occasions et de différentes manières. Et donc les musulmans sont tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qui est légiféré dans la charia. Et le cheikh il dit wa yushra'u al-istisqa idha ajdabat إذا أجدبت الأرض أي أمحلت وانحبس المطر وأضر ذلك بهم فلا مناص لهم أن يتضرعوا إلى ربهم ويستسقوا ويستغيثوا بأنواع من التضرع تارة بالصلاة جماعة أو فرادى وتارة بالدعاء في خطبة الجمعة يدعو الخطيب والمسلمون ويؤمنون على دعائه وتارة بالدعاء عقب الصلاة في الخلوات بلا صلاة ولا خطبة فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que c'est légiféré dans la prière de l'istisqa lorsque la terre est devenue sèche et donc qu'il n'y a plus d'eau et que la pluie n'est pas tombée depuis longtemps et que ça commence à être nuisible et que ça fait du mal pour les gens, alors il faut pour eux, ils n'ont pas le choix de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse tomber sur eux la pluie. Ok, et donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala par différentes sortes d'adoration, comme par exemple soit qu'ils vont faire la prière en groupe ou individuellement, et parfois ils peuvent faire un dua, comme par exemple l'imam peut faire un dua dans la khutbah de Jumu'ah, et le khatib fait le dua et les musulmans eux font amin, et d'autres fois c'est un dua après les prières. Et des fois, c'est des duas lorsque on peut être seul, hein, lorsqu'on est tout seul, et on ne fait ni prière, ni khutbah, on fait juste demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Et tout ça, ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hukm salat al-istisqa annaha sunnatun mu'akkada li qawli Abdullah ibn Zayd. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة muttafaq alayh wa li ghayrihi min al ahadith. Donc il dit le verdict au sujet de la prière à l'istisqa, c'est que c'est une sunna muakkada, et c'est basé sur la parole de Abdullah ibn Zayd qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour demander la pluie. Il s'est dirigé vers la Qibla et il a commencé à faire le dua et il a renversé son manteau et il a prié 2 rak'a et il a récité à haute voix dans ces 2 rak'a. Et ça c'est muttafaq alayh. C'est donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim et c'est authentique. Le cheikh il dit wa sifatu salat al-istisqa fi mawdi'iha wa ahkamiha ka salat al-Eid. فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد وأحكامها كأحكام صلاة العيد وعدد الركعات والجهر بالقراءة في كونها تصلى قبل الخطبة وفي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة كما سبق بيانه في صلاة العيد. Le cheikh il dit la description de la prière de l'istisqa et l'endroit où on la fait et ses règles, tout ça c'est exactement la même chose que la prière de Al-Eid. Et il dit que c'est recommandé de la faire dans l'endroit où on fait la prière de l'Eid, dans un endroit ouvert et non pas dans la mosquée. Et il dit que les règles, c'est-à-dire ça c'est recommandé, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, et il dit que les règles de la prière de Al-Istisqa, c'est la même chose que les règles de la prière de Al-Eid, dans le nombre de rak'at, dans le fait qu'on récite à haute voix, et dans le fait qu'on fait la prière avant la khutba, et dans le nombre des takbirs qu'on augmente, qu'on rajoute avant, dans la première rak'at et dans la deuxième rak'at, comme on a expliqué pour Salat Al-Eid. Wa qala Ibn Abbas radiyallahu عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح صححه الحاكم وغيره. نعم. OK. Donc il dit que Ibn Abbas a dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a prié 2 rak'ah comme il faisait pour la prière de l'Eid. Et ça c'est rapporté par Al-Tirmidhi et le Cheikh il dit que c'est un hadith Hassan Sahih et Al-Hakim et d'autres l'ont authentifié. Il dit que ensuite c'est rapporté également par Abu Dawood et Al-Tirmidhi et Al-Nasa'i, et toutefois dans la version de Al-Nasa'i il n'y a pas l'ajout comme on prie la prière de l'Aïd. Également il est rapporté dans Ibn Majah et dans le Mustadrak, dans Al-Mustadrak de Al-Hakim. D'accord. Ensuite, le cheikh dit ويقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية سورة الغاشية. Donc il lit dans la première الأعلى et dans la deuxième ركعة il lit الغاشية. ويصليها أهل البلد في الصحراء لأنها صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا في الصحراء. Il dit qu'il l'a pris avec les gens de la ville dans le désert. Et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a fait que dans le désert. Et donc, lorsqu'on l'a fait comme ça dans le désert, eh bien, on a plus de facilité, ou bien on peut mieux montrer à Allah, subhanahu wa ta'ala, notre besoin de lui. Et notre indigence du fait qu'on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ensuite, le cheikh il dit وَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامَ الْخُرُوجَ لِصَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَدَّمْ ذَلِكَ تَذْكِيرُ النَّاسِ بِمَا يُلَيِّنْ قُلُوبَهُمْ مِنْ ذِكْرِ ثَوَابِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب لمنع القدر وانقطاع البركات والتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Donc le cheikh il dit que l'imam, s'il veut sortir pour la prière de l'istisqa, il faut qu'il fasse précéder ça par le fait que il rappelle aux gens, par un rappel pour alléger leur, et adoucir leur cœur. Donc il leur rappelle la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur commande de se repentir de leurs péchés et de sortir des injustices qu'ils ont pu faire en rendant l'injustice ou le mal qu'ils ont fait, en réparant le mal qu'ils ont fait à la personne à qui ils l'ont fait. Et pourquoi on demande tout ça? Parce que en réalité, les péchés, c'est une des causes par laquelle Allah nous empêche la pluie ou nous coupe de la pluie et nous coupe de toutes les bénédictions. Et également, lorsqu'on se repentit et lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien ça c'est une des causes qui vont faire en sorte que notre dua va être exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si les gens de la cité avaient cru et avaient craint Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur aurions ouvert les portes des bénédictions. On aurait ouvert sur eux les bénédictions des cieux et de la terre. Mais ils ont traité de mensonges les messagers, alors nous les avons pris à cause de ce qu'ils avaient acquis. Et ça c'est le verset 96 dans Sourate Al-A'raf. Et une autre preuve de ça aussi, c'est le verset dans Sourate Nuh. Sourate Nuh, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit les paroles de Nuh à son peuple: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Donc Nuh il disait à son peuple de revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est pardonneur, et il allait faire tomber sur eux par la suite en récompense de la pluie du ciel et leur donner beaucoup d'enfants et des biens et faire couler des ruisseaux et des jardins pour eux. Donc ça c'est un exemple du fait que lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il fait tomber ses bénédictions. Ensuite le cheikh dit: wa ya'muruhum bis sadaqah 'ala al fuqara' wal masakin لأن ذلك سبب للرحمة ثم يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة ثم يخرجون إلى الموعد إلى المصلى بتواضع وتذلل وإظهار للافتقار إلى الله تعالى لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. Donc ça c'est oui, ça c'est dans le hadith qu'on a mentionné selon Ibn Abbas tout à l'heure. En fait, le cheikh il dit que il doit ordonner aux gens de faire la sadaqa pour les pauvres. Et il doit ordonner également aux gens de se préparer et de sortir pour cette occasion-là. Et il ordonne aux gens de donner une sadaqa pour les pauvres. Pourquoi? Parce que ça fait descendre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il leur donne un endroit et un moment, un rendez-vous précis un jour et un endroit précis où ils vont se réunir pour se préparer pour cette occasion-là où ils vont faire la prière de l'istisqa selon la manière dont on a décrit tout à l'heure. Et donc ils vont sortir ce jour-là vers cet endroit-là d'une façon avec beaucoup d'humilité et de soumission, et ils montrent, hein, ils expriment leur faiblesse et leur besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils ont besoin de sa miséricorde et de sa grâce. Donc comme c'est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le messager, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la prière de l'istisqa, et il s'humiliait yani devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il exprimait sa soumission et son humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est comme l'a rapporté At-Tirmidhi, et c'est dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure à propos de Ibn Abbas. Après, Cheikh dit وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَأَخَّرْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجِ حَتَّى الصِّبْيَانُ وَالنِّسَاءُ الَّتِي لَا تُخْشَى الْفِتْنَةُ بِخُرُوجِهِنَّ فَيُصَلِّي بِهِمْ الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً وبعض العلماء يرى أنه يخطب خطبتين. Le cheikh dit, et il faut pas que personne retarde parmi les musulmans qui sont capables d'y aller. Il faut que tout le monde assiste à cette prière de l'istisqa. Il dit même les femmes et les enfants, hein, les femmes qui sont capables de venir et qui vont pas causer de fitna lorsqu'elles vont sortir, eh ben, elles doivent sortir également. Et l'imam va prier deux rak'at avec elles, avec les gens. Il va prier deux rak'at et il va faire une khutba par la suite. Et il y a certains ulama qui voient qu'il faut qu'il fasse deux khutba au lieu d'une. Déjà dans la prière de l'Eid, on avait mentionné que c'était une seule khutba, mais déjà encore il y avait une différence d'opinion là-dessus. وَالْأَمْرُ وَاسِعٌ. C'est une question qui est large, c'est-à-dire c'est pas une grosse différence d'opinion à ce sujet-là. Il dit وَلَكِنَ الْاِقْتِصَارُ عَلَى خُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَرْجَحُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ. Il dit mais là, par rapport à la preuve, c'est plus clair qu'on doit faire une seule khutba. Comme on avait dit la dernière fois. وكذلك كون الخطبة بعد صلاة الاستسقاء هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم واستمر على ذلك واستمر عمل المسلمين عليه وورد أنه صلى الله عليه وسلم خطب قبل الصلاة وقال به بعض العلماء والأول أرجح والله أعلم. شيخ الزي. Le fait qu'on fasse la prière après, le fait qu'on fasse la khutbah après la salat l'istisqa, c'est ce qui est le plus rapporté des actions du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sur ça que la plupart des musulmans par la suite ont continué. Ils ont appliqué ça de cette façon-là, c'est-à-dire ils font le khutbah de Jumu'ah après la prière. Toutefois, ça a été rapporté dans certaines narrations, comme par exemple dans d'autres versions de certains hadiths, selon Abbad ibn Tamim, selon son oncle, ça c'est dans un hadith de Bukhari et Muslim aussi, qu'il a prié après la khutbah. Il a fait la khutbah en premier, puis après il a prié. Et certains ulama ont pris cette position-là, mais le cheikh dit que la première position, celle qui dit que la prière est avant le khutbah, c'est elle qui est la plus correcte, wallahu a'lam. Et il dit وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرْ فِي خُطْبَةِ الْاِسْتِسْقَى مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ وَقِرَاءَةِ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِنُزُولِ الْغَيْثِ ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. Donc il faut que l'imam qui fait la khutbah de l'istisqa mentionne souvent aux gens le fait de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit réciter les versets dans lesquels il y a le commandement et l'ordre de demander la pluie à Allah de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des causes qui va faire descendre la pluie. Et il faut faire beaucoup de dua. Il faut que les gens fassent beaucoup de dua pour demander la pluie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit: wa yarfa'u yadayhi li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi fi du'a al-istisqa hatta yura bayad ibtayh. Et ça, c'est rapporté par Bukhari et Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains dans le du'a de l'istisqa jusqu'à ce qu'on voit la blancheur de ses aisselles en dessous de ses bras. Et yani, même que c'est rapporté dans le du'a al-istisqa que c'est le dos des mains qu'on soulève. Yani, on soulève nos mains, la paume des mains vers le bas et non pas vers le haut. Après il dit wa fi nam ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة ودعاء ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اقتداء به صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Sourate Al-Ahzab. Donc le Cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire la salat sur lui, il faut demander le salut et l'appel d'Allah sur le messager, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça fait partie des causes qui vont faire que notre invocation sera exaucée. Et il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le dua qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, c'est-à-dire comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le chapitre de Al-Istisqa. Et le fait qu'on se base sur l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est mentionné dans le verset 21 dans sourate Al-Ahzab, lorsque Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a certes pour vous un exemple à suivre dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala et en le jour dernier. Et il dit wa yusannu an yastaqbila al-qibla fi akhir ad-du'a wa yuhawwilu rida'ahu wa yaj'alu al-yamin 'ala ash-shimal wa ash-shimal 'ala al-yamin wa kadhalika ma shabaha ar-rida' min al-libas kal-aba'ah ونحوها لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. الشيخ dit que c'est une sunna que l'imam il va se tourner vers la qibla et à la fin de son dua il va tourner. Il se tourne vers la Qibla pour faire le dua, et à la fin de son dua, il tourne son manteau, il renverse son manteau à l'envers. Ok? Donc il renverse son manteau à l'envers. Le dedans dehors et le dehors dedans. Et il le met sur ses épaules, et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en direction de la Qibla, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tournait son dos et il tournait le dos aux gens et il se dirigeait vers la Qibla et il faisait le dua et il changeait son manteau de sens. Il renversait son manteau et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wal hikmatu fi dhalik, wallahu a'lam, at-tafa'ul bi tahwil al-hal عما هي عليه من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث ويحول الناس أرضيتهم لما روى الإمام أحمد حول الناس معه أرضيتهم لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته لما ما لم يدل دليل على اختصاصه به. Le cheikh il dit la sagesse dans le fait de changer le sens du manteau. Il dit Wallahu a'lam, c'est-à-dire c'est Allah seul qui sait mieux. Mais il dit que c'est une possibilité, qu'une des sagesses dans le fait de faire ça, c'est le fait qu'on change notre état, et donc de la difficulté vers la facilité, et le fait que la pluie tombe, la pluie va tomber, donc les gens ils vont changer leur manteau également. C'est pas seulement l'imam qui va changer son manteau de côté, mais également les gens, comme c'est rapporté dans la version de l'imam Ahmad, selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim, qui dit que il renversait son manteau et les gens renversaient leur manteau avec lui. Et donc, ce qui est établi pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et bien c'est établi également pour sa umma, excepté s'il y a une preuve qui mentionne que c'est spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le cheikh il dit, puis ensuite thumma in saqa Allah al-muslimin wa illa a'adu l'istisqa thaniyan wa thalithan li'anna al-hajata da'iyatun ila thalik. Et ensuite, si Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber la pluie pour les musulmans, c'est bien. Sinon, ils refont encore une fois, une deuxième fois ou une troisième fois l'istisqa, parce que les gens en ont besoin. Et c'est une chose que j'ai remarqué en Arabie Saoudite quand j'étais là-bas. À chaque fois qu'il y avait une prière de l'istisqa, eh bien, il y avait la pluie qui tombait par la suite, et c'était parfois des très grosses pluies, donc c'est quelque chose, mashallah. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, ils font tomber la pluie. Et parfois il y en a des gens qui ont cette shubha, qui disent comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les pays musulmans, certaines fois il y a la sécheresse, il n'y a pas la pluie, alors que dans les pays de Kufr, les gens font plein de péchés et puis ils ont de la pluie. Et il y a des ulama qui ont répondu en disant que en réalité, la cause des musulmans, pourquoi on n'a pas de pluie dans certains pays musulmans et qu'il y a la sécheresse, c'est justement à cause de nos péchés. Tandis que les kuffars, eux, c'est surtout dans leur pays, c'est pas pour eux, c'est pas pour les koufars, bien entendu, la pluie, mais c'est plutôt pour la miséricorde envers les animaux et la nature, les plantes et tout ça. C'est eux qui, pour les abreuver. Donc, alhamdulillah, Cheikh il dit, wa idha nazal al-matar yusannu an yaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. يقول اللهم صيبا نافعا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. Donc lorsque la pluie est tombée, c'est une sunna de se tenir debout au début de la pluie pour que un peu de cette pluie tombe sur nous, comme c'est rapporté par l'imam Muslim selon Anas. Et il dit, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, Allahumma sayyiban nafi'an. Il dit, oh Allah, cette pluie fait qu'elle soit une pluie qui est bénéfique. Et il dit, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Et comme c'est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim, il dit, et Allah nous a fait tomber, ou bien la pluie est tombée sur nous par la grâce et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha zadat al-miyah wa khifa minha ad-darar sunna an yaqul Allahumma hawalayna wa alayna wa la alayna. اللهم على الطر على الذراب والأكمام والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر لأنه كان يقول ذلك متفق عليه. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que si l'eau commence à tomber trop et qu'on commence à craindre que ça va faire des inondations et du dommage, c'est une sunna de dire dans ce cas-là ce dua-là: Allahumma hawalayna wa la alayna, Allahumma ala al-dhirab wa la akam wa butun al-awdiyati wa manabit al-shajar. C'est-à-dire on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas faire cette pluie-là, de faire que cette pluie-là soit pour nous et non contre nous, et de la faire tomber là où il y a des besoins où il faut que cette pluie tombe, comme là où il y a des plantes qui poussent et là où il y a des vallées et des oasis et des trucs de ce genre. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui, puis on continuera demain. Notre cours inshallah c'est sur les règles de al-janaiz, c'est-à-dire les prières, les règles en ce qui concerne lorsqu'il y a un décès, hein, qu'est-ce qu'on fait avec le mort, comment on le lave et tout, et comment on fait la prière sur lui et tout ça, comment on enterre le mort. On va commencer à expliquer ça demain inshallah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.